Ben, nous, on poursuit avec d'autres informations qu'on a pu suivre en fin de semaine. C'est le fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, est mort en fin de semaine. Il avait quand même 91 ans. Et pour parler de cet entrepreneur unique et du géant qu'il a été, IKEA, on va rejoindre dans nos studios de Gatineau le professeur en marketing à l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. Bonjour, Luc.
Bonjour, Ève-Marie.
On est plusieurs, là, à avoir... on jette un œil à notre ameublement, puis on a quelques morceaux à IKEA. Je connais très peu d'étudiants qui n'ont pas la fameuse bibliothèque Billy. Mm-hmm. mais tout a commencé pour M. Kamprad. Il a lancé IKEA alors qu'il avait seulement 17 ans. Raconte-nous l'histoire des débuts.
Ouais, c'est une histoire absolument fascinante. C'est l'histoire d'un enfant qui a des problèmes de concentration, pas très bon à l'école, dyslexique, mauvais bulletin après mauvais bulletin. Puis tout à coup, à 17 ans, là, il revient à la maison, il montre son bulletin à son père et c'est un bon bulletin. Et son père, son réflexe, ben, c'est de lui donner de l'argent de poche en disant, ben, écoute, enfin, un bon bulletin, v'là des sous.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Récompense, absolument. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? On est en 1943. Il fonde à 17 ans ce qui va devenir IKEA, qui est à l'origine une entreprise qui vend ses produits par la poste. Alors, tu peux acheter des décorations de Noël par la poste, des montres, des crayons, des fleurs, et tu me vois bien sûr venir, des meubles.
Mm-hmm.
Et là, arrive un incident. Il y a une commande. Il y a une commande de meubles.
Oups.
Mais là, il dit, il faut que je livre la commande. Alors là, ils essaient de rentrer le meuble dans le camion. Le meuble entre pas. Fait que là, il y a un employé qui dit, ah, si on dévissait les pattes, on serait capable de rentrer le meuble.
Dis-moi pas que c'est comme ça que ça a commencé.
Absolument. Et là, il dit, eh ben, maudit que c'est bon ton idée. Et là, il raconte que dans les semaines puis les mois qui vont suivre, il est obsédé. Il se met à imaginer une entreprise qui est capable de fabriquer des meubles qu'on met dans des boîtes, dans des entrepôts, on fait visiter les gens. Puis évidemment, je suis en train de te parler de quelque chose qui ressemble étrangement à... IKEA.
Ouais.
Alors, il va lancer la première salle de montre en 1953 parce que son constat, c'est qu'il faut que les gens voient le meuble monter pour l'acheter. Et par la suite, en 1958, il va lancer officiellement quelque chose qui ressemblerait étrangement au IKEA qu'on connaît aujourd'hui.
Ça vient d'où le mot IKEA, le nom IKEA?
Alors, c'est un acronyme. C'est la première lettre de son prénom, de son nom également, la première lettre de la ferme familiale, et c'est la première lettre du nom du village qu'il habitait. Et lui, il va grandir extraordinairement pauvre. Il va vendre des allumettes, il va se promener en bicyclette pour vendre des crayons également, gamin. Alors, c'est très, très difficile. Et il y a quelqu'un dans sa famille qui va lui répéter très souvent qu'il ne sera probablement bon à rien dans la vie parce qu'il est pas bon à l'école.
Oh.
Alors, c'est une histoire qui est assez remarquable parce que je te parle, après tout, de la 8e fortune planétaire. Il vaudrait techniquement 58 milliards de dollars. Je te dis techniquement parce que à un moment donné, pour éviter, entre autres, de payer des impôts en Suède, il va aller vivre en Suisse. Et là, il va faire tout un montage financier. Il est, à certains égards, l'inventeur du montage financier. Là. Ce qu'on appelle là, aller au Luxembourg, au Liechtenstein, mm-hmm. aux Pays-Bas également. Et pourquoi il fait ça? Parce que le gars, ce qui est toujours pas raconté non plus, c'est que c'est un méchant gratteux. Alors, il va se vanter à la fin de sa vie d'avoir acheté à peu près tous ses vêtements dans les marchés aux puces.
T'es pas sérieux?
Oui. Il conduit... Alors, je te rappelle qu'il vaut 58 milliards de dollars. Il chauffait une vieille Volvo qu'il possédait depuis une quinzaine d'années, voyageait en classe économique en avion, même chose à l'hôtel, et il recyclait ses poches de sacs de thé. Alors, quand t'es rendu à faire ça...
Ouais.
T'es assez...
Mais t'es marqué par ton enfance,
oui.
Puis parce qu'on t'a répété constamment que probablement tu pourrais jamais arriver à rien de bon dans la vie. Mais quand t'as vécu peut-être la pauvreté extrême que tu racontais tout à l'heure, tu veux toujours aussi te protéger hein, en cas que quelque chose arrive, j'imagine.
Oui, et quand tu jettes un coup d'œil sur le produit IKEA, ben il y a aussi de ça. Il y a pas beaucoup d'employés dans un magasin IKEA. Officiellement, c'est pour que le consommateur prenne son temps, pas de pression, etc. Mais en réalité, tu auras compris que c'est parce que ça coûte un petit peu moins cher. Lorsqu'il lance son catalogue en 1951, qu'il imprime encore au moment où on se parle à 210 millions de copies, annuellement, catalogue de format carré pour ceux qui sont familiers et pas familiers avec IKEA, il va dire on va photographier des employés dans le catalogue au lieu des mannequins professionnels parce que ça va coûter moins cher. Alors, tu vois comment, à chacune des décisions, puis on parle d'expérience, c'est assurément ce qui différencie IKEA des autres magasins. Après tout, quand tu rentres dans un IKEA, il y a des flèches. Mais la réalité, là, c'est que si tu entrais dans un Walmart puis on te disait fais ça, fais ci, fais ça. Est-ce qu'on le ferait toi puis moi?
Je pense que pas. Mais c'est vrai qu'on te prend, on te prend en charge chez IKEA.
Oui.
Tu montes les escaliers mobiles.
Oui.
Puis là, tu arrives dans des zones. On réussit à te faire imaginer que tu pourrais habiter là.
Oui. Hein? Et alors ça, c'est un autre truc important, Eve-Marie, c'est que c'est un voyage. C'est un petit moment d'exotisme. Après tout, ça s'appelle pas des boulettes de viande, ça s'appelle des côtes-boulards.
Ouais. Hein?
Toujours.
Ça arrive quand, ça, d'ailleurs, dans l'aventure chez IKEA, la restauration ou les fameuses boulettes suédoises,
ouais,
tu sais?
Ben, les boulettes, la garderie aussi. Ben, encore là, c'est un constat tout simple du monsieur en question. C'est plus les gens passent de temps dans mon magasin, plus ils vont acheter. D'où les flèches. Parce que t'entres pour tes deux chaises. Tu cherchais tes deux chaises, Eve-Marie, là.
C'était ouais, ça. Oui, mais il faut que je passe par la cuisine, puis la salle à manger, puis la salle de bain, puis la chambre à coucher avant.
Elles sont-tu belles, les assiettes? Oui, mais on a déjà deux sets à la maison. Ah, ils sont tellement belles. Alors, lui, ce qu'il s'aperçoit, c'est que tu vas t'enfarger, puis finalement, tu vas sortir avec un paquet de trucs que tu avais peut-être pas tout à fait besoin. L'idée aussi des produits qui sont empilés dans des boîtes. C'est quoi le sentiment que ça te donne, ça, quand t'arrives dans l'entrepôt? Et hey, c'est une bonne affaire, ça? Envoyez-moi-en deux petites temps rapides, ça paraîtra
ben
pas.
Ben oui,
là.
Ils font des îlots, hein?
Oui.
Ils réussissent à te vendre des chandelles que tu pensais jamais que tu voulais avoir autant de chandelles que ça dans ta vie.
Oui, et peut-être orange, c'était pas ta première couleur.
Non?
Mais en y repensant, hey, ça va-tu être beau? Design, ça, c'est l'autre affaire. Design accessible. Mais il semble que design coûte cher, mais lui, design est accessible. Si bien qu'au moment où on se parle, IKEA consomme annuellement 1% de tout le bois de la planète, puis on estime qu'il y a 10% des enfants européens ont été conçus dans un lit IKEA.
Oh, c'est une donnée intéressante, ça.
Parce qu'évidemment, ils en vendent des millions. Ouais. Il y en a un en particulier, là, ils l'ont vendu à des millions d'exemplaires. Alors, évidemment, ça donne naissance éventuellement à des enfants.
Mais oui. Écoute, là, on parle de l'empire de M. Kamprad, mais c'est un individu qui était aussi très controversé.
Oui, très controversé.
Pas juste parce qu'il est gratteux, là.
Non, pas juste parce qu'il est gratteux, effectivement. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser un petit peu au personnage. Et puis en 1994, il y a un journal de Stockholm qui a dit « T'as peut-être oublié de nous raconter une petite histoire qui s'est passée durant la Deuxième Guerre mondiale. » Et c'est là qu'on a compris qu'il avait eu des sympathies fascistes, nazis également. Bon, officiellement, la Suède était neutre durant la Deuxième Guerre mondiale, comme la Suisse d'ailleurs. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle a servi de terrain, parce que les nazis, évidemment, se déplaçaient d'un pays à l'autre. Et puis ça facilitait évidemment les déplacements. Alors là, il y a un article qui est publié initialement dans un journal, puis une dizaine d'années plus tard dans un livre qui va montrer qu'effectivement les sympathies étaient plutôt fortes. Bon, il va raconter qu'il avait même au moment de son décès encore des problèmes d'alcool aussi. Mais ce qui s'empressait de dire, c'était mon seul petit plaisir à peu près dans la vie. Puis je te rappelle que c'est un gars qui d'ailleurs, il disait toujours écrire des deux côtés de la feuille de papier. Parce qu'il y a deux côtés à une feuille de papier. Alors, c'était une obsession.
Faut pas gaspiller
rien. Effectivement, c'était tout à fait. Il disait, je me fais couper les cheveux quand je suis en voyage à l'extérieur des pays scandinaves, ça coûte moins cher.
Ben voyons
alors,
donc.
Alors, tu vois, tout ce que tu pouvais imaginer. En même temps, le livre en question, en grattant, a dit, officiellement, il y a une Volvo de 15 ans, mais en réalité, il y a une Porsche. Officiellement, la maison paie pas de mine, mais il y a un vignoble en Provence. Alors, tu vois que, comme tous les personnages fascinants, ils sont pas juste d'une couleur. Ils sont de toutes sortes de couleurs. Il a lancé, à un moment donné, une fondation pour les enfants pauvres. UNICEF, il a aidé 80 000 enfants. C'est pas si mal, somme toute. Puis, sur le plan du marketing, il disait toujours, on a besoin d'un petit peu de traditionnel puis un petit peu de moderne. Alors, par exemple, en septembre dernier, IKEA a lancé une application de réalité augmentée qui te permet de voir de quoi aurait l'air le meuble que tu vois dans le IKEA s'il était chez vous.
Ils avaient déjà aussi inclus là dans l'édition papier du catalogue avec ton téléphone, tu pouvais aller chercher plus d'informations si tu le présentais là avec ton appareil photo sur certains codes-barres, etc. Il reste que comme consommatrice, moi je peux te confirmer que ce catalogue qui arrive en juillet, c'est un des plaisirs de l'été là.
Oui.
On l'attend là impatiemment.
Imprimé à 210 millions d'exemplaires, je le rappelle. Et puis, qui est extraordinairement populaire. Puis qu'en même temps aussi, souvent, on parlait tantôt, on se déplace. Bon, puis même le panier, les roues en avant bougent comme les paniers nord-américain, mais les roues d'en arrière bougent aussi. Hein? On parlait des noms des produits, les flèches également. Puis souvent, ben, quand on, je pense qu'il est très de son temps aussi, Ikea. C'est-à-dire que de nos jours, ben, les familles se font et se défont, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, à un moment, il y a une séparation, il y a un divorce. Tiens, tiens, un lit, on va aller en chercher un. Alors, sur ce plan-là, on est un petit peu aussi assurément à l'ère du jetable, mais aussi à l'ère du mythique, parce que on connaît tous des gens qui partent de Québec la fin de semaine. Ça va se faire moins souvent dans les prochaines années, dans les prochains mois, mais qui partaient de Québec pour aller à Boucherville.
Ben oui. Des gens de l'Est, bon, reculent, là, va-t'en au Saguenay-Lac-Saint-Jean, va-t'en aussi dans le coin de Rimouski, organiser des voyages avec des pick-up puis des remorques pour aller équiper le jeune qui part en appartement, qui part faire ses études ailleurs. On va aller chez IKEA sur la rive sud de Montréal. On va remplir le trailer, puis on va s'en aller l'installer après. Ça, c'est fait, ça.
Oui, et tout ça a contribué, évidemment, à faire connaître la Suède, parce que, bon, le logo dont on parlait au début, le nom aussi, évidemment, le magasin est aux couleurs de la Suède. Mm-hmm. Et ce qui est amusant, c'est que, dans un premier temps, ben, très rapidement, il va devenir tellement important qu'il y a des commerçants, des marchands de bois et des marchands de meubles également qui vont dire, on va arrêter de lui vendre. Et c'est là qu'il va avoir l'idée d'aller en Pologne en disant, ben, si les Suédois veulent pas me vendre, je vais aller de ce côté-là. Et puis, il a été capable de réduire encore de manière significative le prix de ses produits. Alors, c'est assez fascinant de voir comment chacun de ces petits événements-là, au fond, hein, anodin, hein, le meuble qui rentre pas dans la voiture. Là,
à l'époque, on enlève les pattes. Puis
exact.
Là, ça... Dis-moi, dans tes recherches sur le phénomène et sur le personnage, puis là, je te pose la question sans t'avoir prévenu avant, mais est-ce qu'ils ont déjà envisagé de vendre les meubles tout montés? T'sais, est-ce qu'ils se sont déjà dit, bon, ça peut être un irritant pour nos clients, là, le plan, la clé Allen, puis il manque toujours une vis. Est-ce qu'ils se sont déjà dit, on pourrait peut-être essayer de vendre des trucs
non,
tout montés?
Non, à ma connaissance, jamais ils ont dit ça, Eve-Marie. Par contre, assez rapidement, il dit, je soupçonne qu'il y a des gens qui aimeraient ça l'avoir monté. Mm-hmm. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui vendre des montées, on va se déplacer, puis on va lui monter.
C'est ça, on va offrir le service.
On va offrir le service. Mais si on vend des meubles montés, tous les autres vendent des meubles montés. Hein? C'est un principe fondamental du marketing. C'est qu'est-ce qui te distingue fondamentalement pour le vrai. Alors, je rentre chez Costco, il y a une carte, je paye pour avoir l'autorisation d'entrée. Dans le fond, tous ces produits-là sont encore sur des palettes. Quand on y pense, c'est un concept un peu étrange et pourtant, il fonctionne très, très bien. Même chose dans le cas d'IKEA. Si on était allé cogner la plupart des gens qui nous écoutent à la porte en disant « Bonjour, j'ai une maudite bonne idée de meubles, on va vendre des meubles démontés. » Ah, je sais pas, des meubles démontés, je suis pas sûr que c'est ta meilleure idée. Monter, je suis intéressé. Démonter, c'est embêtant. Hein? Et pourtant, lui va foncer. Et comme la beauté, c'est que quand il va lancer son entreprise en 43, il vend un petit peu de tout. Et très rapidement, il s'aperçoit que, ah, meubles a du potentiel. On pourrait vendre meubles. De la même manière que les fondateurs de McDonald's, les frères McDonald's, au début vont vendre et des hot dogs et des hamburgers. Puis ils vont s'apercevoir qu'il y a plus de marché pour hamburgers que pour hot dogs parce qu'il y a un petit peu plus de compétition pour hot dogs. Alors, c'est un petit peu comme ça, essai-erreur qui
Luc,
va monter.
Est-ce que Ingvar Kamprad était encore à la direction de l'entreprise? Il avait quand même 91 ans, là.
Non, il n'était plus là depuis quelques années. Ça s'est pas bien terminé parce que, bon, il y a un montage financier, c'est pas facile. Officiellement, le gars vaut à peu près 50 millions de dollars, là. Officiellement, on se comprend.
Tu vois, Luc, je t'interromps, mais Nico me fait remarquer que c'est ironique quand même, il y avait de la misère avec son montage financier. Tu comprends?
Oui.
Faut monter les meubles IKEA,
oui.
Un montage
oui.
financier qui s'écroule, c'est pas bon, là.
Non, effectivement. Et ses enfants se sont chicanés très, très longtemps.
Ah oui,
sur la fortune de lui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains gestes qu'il pouvait poser. Mais dans son cas, lui, chaque geste était posé pour minimiser les dépenses et augmenter les revenus. Alors, c'est sûr que vendre des meubles qui ne sont pas montés, ça coûte déjà un petit peu moins cher. Après ça, on pourra les livrer. Après ça, on pourrait déplacer des gens qui vont les monter. Puis dans chacun des cas, on essaiera de faire des sous avec tout ça. Quand tu penses à la garderie dans le
Smaland.
Magasin, quand tu penses au restaurant aussi, on est là-dedans.
Ouais, tu sais, la garderie, elle s'appelle Smaland. Quand tu laisses tes enfants dans la zone de jeu chez IKEA, ça s'appelle Smaland.
Oui.
Et quand on voyait les dépêches en fin de semaine sur le décès de Ingvar Kamprad, on apprenait qu'il avait grandi dans un secteur qui s'appelle Smaland.
Oui.
Donc, c'est
exact.
Une référence à son enfance. Puis, la réflexion.
C'était le nom du village, oui.
C'est ça. La réflexion que j'ai eue, c'est Il y a plein de clins d'œil comme ça que je peux pas interpréter, moi, comme nord-américaine. Entre autres, sur le nom que portent certains objets, les designs qui sont proposés, il y a sûrement plein de clins d'œil à la culture suédoise que pour nous, nord-américains, on ne peut pas interpréter.
Effectivement. Parfois, par exemple, les noms des produits ou les familles de produits, c'est des noms de jeunes filles ou de jeunes hommes, de lieux, de lacs, etc. Là. Oui, il y a tout un code. Puis, comme je le disais il y a quelques instants, comme il avait de la difficulté, il était dyslexique, c'est lui qui a mis au point ça, ce code-là, là, ce code de nom-là. Alors, lui s'assurait qu'il soit capable de prononcer tout ça. Et puis, c'est assez complexe, effectivement, dans les faits. Là, pour un Suédois, évidemment que ça fait beaucoup de sens. Pour un Nord-Américain, on aura compris que tout ça contribue à l'exotisme. En passant, le premier IKEA au Canada, c'est en 1976. Aux États-Unis, c'est en 1985 à Philadelphie.
On a eu ça au Canada avant les États-Unis.
C'est assez rare, effectivement, quand on jette un coup d'œil. Alors, c'est relativement récent, somme toute, aux États-Unis, 1985 à Philadelphie. Et plus récemment, il a ouvert en Corée du Sud et en Inde. Et en Corée du Sud, ça a causé des bouchons de circulation absolument gigantesques. Les gens l'attendaient, en d'autres mots. Quand est-ce qu'il va arriver le IKEA? Un peu, à bien des égards, la réaction qu'on a eue à Québec, hein, parce que les plus vieux qui nous écoutent se souviendront qu'en, de mémoire, 95 ou 96, je vais pas me tromper, là, mais si tu me donnes un ou deux ans de jeu, là, le IKEA avait fermé à Québec. À l'époque, ça avait été interprété comme étant le déclin de la ville de Québec. Et puis là, plus récemment, on a annoncé le retour d'IKEA. C'est sûr que quand tu notes les codes postaux à Boucherville, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, attends un petit peu, là, il y a un méchant paquet de monde qui viennent de la région de Québec.
Ils viennent d'ailleurs, nos clients. Ici. Là.
Quand tu fais 2h15, 2h30 de voiture, aller, puis 2h15, 2h30, retour, n'est-ce pas? 5 heures de voiture. Pour t'acheter une table avec 4 chaises, c'est que sur le plan de l'expérience, là, on est dans quelque chose qui est assez remarquable.
Ouais, une table avec 4 chaises, pas montée, parce qu'il va falloir que tu le fasses, évidemment. Mais puisqu'on est dans la... Parce qu'il y a évidemment la nostalgie où on revisite à quel moment on a acheté un meuble IKEA. Tu sais, c'est souvent, ça correspond avec une période de vie.
Assurément.
Alors, je te raconte, moi, j'ai grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'avait pas d'IKEA, il n'y en aura toujours pas non plus, mais à ce moment-là, il y avait un IKEA à Québec qui était juste à Le Bourgneuf, à la sortie du parc des Laurentides. Et j'ai un souvenir très, très franc en mémoire. On est partis, mes parents et moi, aller chercher ce qu'il fallait pour ma chambre d'ado. Hein, ma table de travail pour faire mes devoirs dans ma chambre. On allait chercher ça chez IKEA. La douillette, je l'avais choisie d'avance. Puis où est-ce que j'avais pris mes idées? Dans le catalogue qu'on avait fait venir par ma tante Francine, qui, elle, habite à Québec. Puis elle nous avait envoyé ça par la poste pour que je puisse faire mon repérage avant. Tu comprends à quel point ils ont réussi à aller nous chercher comme consommateurs avec des meubles à assembler?
Oui, et moi aussi, quand j'y pense, là, parce que à une certaine époque, j'étais très IKEA, je le suis assurément moins aujourd'hui, mais ça correspondait aussi à quelque chose comme ça. Mm-hmm. Je prenais mes affaires, puis je m'en allais à Montréal étudier, à l'université, et puis avant de partir, j'étais parti somme toute avec mes 3-4 boîtes, puis j'étais monté là, puis je les avais montées.
C'est ça.
J'ai un souvenir effectivement moi aussi très, 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 très précis, même de la bibliothèque dans laquelle j'ai mis mes quelques livres en me disant qu'un jour, j'espère, je serais capable de la remplir. Là. Évidemment que depuis, c'est le cas. Mais
on
je me souviens très, très bien de ça.
À voir que ces meubles-là, des fois, font encore partie de notre univers. Oui, ils sont rendus souvent dans la cave, mais ils sont encore là.
Oui, ils sont souvent prêtés aussi hein, ou à quelqu'un ou les enfants éventuellement. Puis un part avec quelque chose, ça s'offre bien, effectivement.
Ouais. Hey, Luc, merci pour la discussion. Tu vois, évidemment, comme d'habitude, quand on parle d'objets, quand on parle de biens de consommation, il y a une fibre émotive derrière tout ça.
Assurément.
Ah. Salut Luc.
C'est un beau plaisir.
Luc Dupont, professeur en marketing à l'Université d'Ottawa. Et puis, je vous rappelle la grosse nouvelle dans la radio de Québec cet après-midi. André Arthur, congédié par la station de radio Boulevard 102.1 FM à Québec. La direction de la station qui a mis la nouvelle sur Twitter et dit qu'ils ne donneront pas plus de commentaires.
Il y a une petite poésie dans la date du retrait de M. Arthur, parce que c'est le premier qu'on a entendu déblatérer sur les victimes de l'attentat de l'année dernière. Pendant que tout le monde, à peu près, est encore sous le choc. Puis j'avais le goût de féliciter les Lettlers de l'avoir mis dehors, puis je me suis souvenu que c'était eux autres qui l'avaient ramené. Fait que je vais me garder une gêne.
On va en parler aux nouvelles avec Mathieu au retour.